Vous êtes bien sur Radio Vassivière, à l'écoute du numéro 2 de
Élève-toi
avec les enfants.
Ici Émilie, depuis le studio de Felletin. Lors du premier épisode d'Élève-toi avec les enfants, je vous ai parlé du besoin de connexion des enfants. Et oui, ils ne sont pas en train de faire des caprices, ils ne sont pas en train de faire du cinéma. Ils sont en train de nous dire « J'ai besoin de toi, aide-moi à me reconnecter ». Aujourd'hui, je vais vous parler de leurs émotions. Les pleurs, l'indignation, la frustration et peut-être les peurs aussi si nous avons le temps. Émotion. Ça veut dire, ça vient du mouvement, il faut qu'il y ait du mouvement. C'est quelque chose qui doit sortir une émotion, qui n'est pas fait pour rester là, à l'intérieur. Parlons déjà des pleurs. Et oui, les pleurs des bébés et des enfants. Voilà un gros chapitre pour les parents et pour ceux qui s'occupent des enfants. Alors déjà, pleurer est un processus de guérison. Ça, c'est la première chose super importante à avoir en tête. Quand il pleure, il guérit. Et qu'est-ce que nous pensons, nous, souvent, à la place de ça? Nous pensons, l'enfant qui pleure est en détresse, je dois absolument le sauver, je dois absolument le consoler, il faut absolument qu'il arrête de pleurer maintenant. Ou bien nous pensons, l'enfant qui pleure doit apprendre à cesser de pleurer. Bon, ça suffit, hein, il ne va pas pleurer comme ça tout le temps, il va pleurer tout seul et après ça ira mieux, il va arrêter de pleurer. Et non, là, on a tout faux. Une pensée qui serait vraiment constructive pour eux, c'est, l'enfant qui pleure est en train de guérir et je dois le soutenir. Il a besoin de moi pour pouvoir faire sortir cette émotion de lui et retrouver sa joie de vivre. Donc l'enfant qui est en train de pleurer a besoin d'être écouté. Et pour être écouté, il a besoin de se sentir en sécurité. Et comme je vous l'ai raconté la dernière fois, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'être connecté à un adulte. C'est comme ça qu'il va pouvoir guérir en pleurant. S'il pleure tout seul, là, c'est beaucoup plus compliqué. Nous ne sommes pas dans le même mécanisme. Alors, qu'est-ce qu'une réponse adaptée de l'adulte auprès de l'enfant qui pleure? Eh bien déjà, évidemment, nous allons évacuer tout problème physique, toute douleur physique, enlever tous les risques, hein, qu'il ne se fasse pas mal. Évidemment, il ne s'agit pas de l'écouter s'il a toujours une punaise enfoncée dans son pied. Donc, petit exemple pour vous dire, évidemment, on ne reste pas comme ça sans rien faire, on regarde déjà ce qui se passe pour lui. Ensuite, si on a évacué tout problème physique, eh bien, il s'agit d'être complètement présent et de manière chaleureuse avec des gestes doux. Alors, selon son âge, selon l'enfant, on va pouvoir rentrer en contact physique direct avec lui ou bien ça ne sera peut-être qu'un contact visuel, bien montrer que nous sommes là, en tout cas. Et ensuite, écouter, le regarder dans les yeux et lui dire quelques mots, des mots qui rassurent sur notre présence, qui le rassurent qu'il est bien en sécurité. Ça peut être « je suis là pour toi, je t'écoute ». Et un gros risque, souvent un piège sur notre chemin de parents et d'éducateurs bienveillants, eh bien c'est de trop parler. Et si j'en dis trop, eh bien je le sors de ses émotions, je le ramène au mental et c'est fini du processus de guérison. Donc attention, je ne parle pas trop. Patty Whipler parle de 5 mots. Je peux dire 5 mots pour dire à mon enfant ou à un enfant dont je m'occupe que je suis là, je suis bien présent, il peut pleurer en sécurité. Et ensuite, il va s'agir de rester jusqu'au bout. Tant qu'il y a des pleurs, je reste. J'écoute. Et oui, là, je sais que c'est un petit peu dur. Et on verra d'autres solutions, des solutions ensemble pour voir pourquoi on n'arrive pas à rester, pourquoi on a envie qu'il arrête de pleurer et comment on peut faire pour progresser dans cette écoute. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on n'a pas forcément cette compréhension qu'il est en train de guérir en pleurant? Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Souvent, nous tentons de le distraire. Distraire le bébé, vous savez, avec la totote dans la bouche, avec le doudou. Oh, il est tombé, il pleure, il a mal. Oh, vite, 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 son doudou, qu'il arrête de pleurer. On le distrait, sa maman est partie. Oh, viens, viens faire ce puzzle, tu sais, celui que tu aimes tant. Ou bien, je vais te promener. Bébé n'arrive pas à dormir, il pleure. Viens, je vais te promener, je te mets sur mon dos, comme ça, il va arrêter de pleurer. Donc évidemment, ça part d'une bonne intention. Hein. J'ai envie de m'occuper de lui, mais c'est basé sur une pensée erronée. Je pense qu'il doit arrêter, que je dois le sauver. Et donc le distraire. Bon, parfois, bien sûr, c'est utile de le distraire parce que si là, ça se passe alors qu'on a un rendez-vous super important ou alors qu'on est en public ou alors que nous sommes en train de nous occuper d'autres enfants, eh bien oui, on peut faire le choix conscient de distraire l'enfant parce que là, tout de suite, nous ne pouvons pas écouter ses pleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre qui n'est pas forcément adapté? Eh bien, on peut chercher à le calmer à tout prix. Ah oui, tu voulais le bol bleu. Ah, mais il n'y a plus de bol bleu. Bah tiens, prends le bol rouge. Ah non, tu veux pas le rouge non plus. Bon, bah j'irai t'acheter un bleu, là, tout à l'heure. Non, maintenant, je vais t'en acheter un tout de suite. Hein? En fait, ce n'est pas la solution de venir absolument répondre aux besoins parce que ça peut être juste une goutte d'eau qui l'a fait pleurer. Et c'est pas ça le vrai problème. On peut chercher à le raisonner s'il est plus grand. Bon, écoute, là, maintenant, t'es grand ou t'es un garçon, tu pleures pas. Hein? Ou voilà, je vais t'expliquer, écoute, t'as aucune raison de pleurer là-dessus, parce que si tu regardes bien, en fait, la situation, ça fait que, ben non, tout va bien, tu vois. Voilà, on peut bien regarder les choses en face, voilà, on prend une voix d'adulte qui résonne, qui rentre dans le mental, et on voudrait que l'enfant, il résonne. Mais non, quand il est dans ses pleurs, il est dans ses émotions. Et quand on repasse au mental, hop, on arrête le processus. Non, ça sert à rien, c'est pas maintenant. Je dis pas que ça arrivera pas plus tard d'aider à le raisonner, mais c'est pas maintenant. Une autre réponse inadaptée serait, eh ben oui, de le gronder. Hein. Allez, file dans ta chambre, je veux plus te voir. Arrête de pleurer. Le mettre à l'écart, donc c'est ce que je viens de dire, file dans ta chambre, va ailleurs, je veux pas te voir pleurer, t'es pas beau quand tu pleures. Le menacer, si tu continues de pleurer, t'iras pas jouer chez ton copain cet après-midi. Ou le blâmer. Et aussi, malheureusement, il arrive que l'adulte vienne se mettre en colère. Parce que ça le met trop mal, les pleurs, il supporte pas, il comprend pas, et là, il y a de la colère qui vient. Bon, tout ça, c'est pas top. Mais comme je vous ai dit, eh ben, l'idéal, c'est d'apprendre à les écouter, et surtout d'être, compatissant envers soi-même, parce qu'une fois qu'on a compris des choses qu'on pouvait faire de travers jusque-là, eh bien, il faut du temps pour changer les habitudes. Il faut du temps pour... on avait tracé des autoroutes et là, on commence à voir qu'il y a un chemin qui est un petit peu plus sympa sur le côté, mais il est plein de friches, quoi. Donc, il faut le défricher calmement. Et puis, au bout d'un moment, le chemin, il devient tout beau et puis on oublie l'autoroute. Mais donc, patience, hein, on progresse petit à petit. Après les pleurs, la frustration. Un enfant qui se sent frustré va faire une crise de rage. C'est ça l'émotion qui va venir, une crise de rage. Donc quand l'enfant ne parvient pas à faire ce qu'il souhaite, il est à bout de ce qu'il peut tenter et là il craque. La frustration est trop grande, l'émotion prend le dessus sur la réflexion et l'empêche de pouvoir continuer ce qu'il faisait. Inutile de trouver la solution à sa place ou de lui faire des propositions, non. La seule issue à cette frustration, c'est une bonne crise de rage. Bon, eh bien, si elle n'est pas permise, il abandonne et il se retrouvera dans cet état très prochainement. Et oui, puisque quand on ne permet pas à une émotion de sortir, l'enfant peut mettre un couvercle bien solide, bien serré dessus, mais au bout d'un moment, ça va revenir, hein, donc on fait que repousser. La crise de rage, donc, eh bien, c'est le processus de guérison face à la frustration. Que fait l'enfant quand il est en crise de rage? Il fait du bruit, il gesticule, il peut pleurer, il peut transpirer. Il se déchaîne pour relâcher toutes ses tensions. Et ce n'est pas très long, une crise de rage. Hein. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, allez, 15 minutes, vraiment. Mais c'est plutôt quelques minutes. Alors, les pleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, ça peut être beaucoup plus long, hein, surtout quand ça fait longtemps qu'ils sont enfouis, qu'on ne les écoute pas. La crise de rage, elle est plus rapide, elle est plus spectaculaire. Hein. Il gesticule, il peut se mettre par terre, il fait beaucoup de bruit. Et on peut voir que c'est une crise de rage parce que personne n'est visé. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de malveillance, non. C'est juste qu'il n'en peut plus. Hein. Il voulait faire un super château et ça n'arrête pas de tomber. Et là, il n'en peut plus. Il fait une bonne crise de rage, il se démène sur lui-même. Enfin, sur lui-même, on l'empêche toujours de se faire mal, bien sûr. Mais il ne vise personne, ça sort, et quand c'est bien sorti, eh bien, tout va mieux. Donc, l'idéal, le parent, là, ou l'éducateur, eh bien, il accueille cette crise. Il ne menace pas, il ne juge pas, il ne met pas à l'écart, il ne gronde pas. Et on ne fait pas à sa place, parce que si on pense que l'on doit sauver l'enfant qui est en train de vivre cette frustration, on va chercher à faire le château à sa place. Mais non, c'est pas ça qu'il veut, lui. Il veut réussir à le faire lui-même, le château. Donc, on ne le fait pas à sa place, on soutient. On montre que nous sommes présents, on ne cherche pas à l'apaiser puisque c'est justement son issue, c'est sa guérison, la crise de rage. Donc on va la permettre en assurant sa protection, évidemment, et en étant présent chaleureusement comme d'habitude et à l'écoute. On reste proche sans consoler. Bon, cas plus compliqué, si ça se passe en public, bon, eh bien là, on essaie de se mettre à l'écart. Hein. On annonce qu'on va revenir si besoin, mais on va se mettre dans un coin parce que c'est pas agréable pour un enfant d'être vu dans cet état-là. Alors une fois qu'elle est faite, cette crise de rage, eh bien grâce à elle, l'enfant il peut reprendre ses apprentissages. Il retrouve sa patience, il retrouve son optimisme, sa créativité. Et oui, c'est une clé dans les apprentissages, pouvoir accueillir la crise de rage, pouvoir l'accueillir pour faire passer la frustration et retrouver toutes ses capacités par la suite. Alors, bien sûr, si une crise de rage se répète régulièrement dans une même situation, alors l'adulte peut se poser la question. Est-ce que mes attentes et mes demandes n'étaient pas un petit peu trop fortes? Était-ce bien justifié? Est-ce que l'enfant ne se retrouve pas dans une situation voilà, qui n'est pas équilibrée pour lui, qui n'est pas juste, qui n'est pas adaptée? C'était pour les deux premières, les pleurs et la frustration. Maintenant, voyons voir l'injustice. Que fait un enfant quand il se sent dans une situation d'injustice ? Injustice pour le traitement qu'il a reçu lui ou pour qu'un autre enfant, une autre personne autour de lui, reçoit de l'injustice ? Eh bien, face à ça, une réponse saine est l'indignation. L'indignation, c'est protester avec véhémence, de manière immédiate, forte et spontanée. Là, comme dans la crise de rage, l'enfant ne souhaite blesser personne. Il ne s'en prend à personne, mais juste il va pouvoir dire, exprimer avec toute sa force, son courage, sa volonté de dire que non, ce qu'il se passe là, ce n'est pas juste. Et là, l'enfant, il a besoin d'être entendu. Et il a besoin de pouvoir défendre ce qu'il pense être juste. Un enfant qui conserve sa capacité à s'indigner conserve aussi son sens de la justice et sa capacité à se défendre des maltraitances. Et bien, une réponse inadaptée dans ces cas-là, celle que j'ai bien connue, c'est « Oh là là, quel mauvais caractère, quel caractère de cochon, non mais tu vas pas me répondre comme ça !» Eh bien oui, là ce n'est pas juste, on enlève à son enfant sa capacité de s'indigner face à l'injustice. Il ne serait pas très adapté non plus de le parler pour le calmer. Il a d'abord besoin d'être entendu. Il ne serait pas non plus adapté de le raisonner, de nous justifier sur la raison de pourquoi on a fait ça, pourquoi telle personne a fait ça. Il ne serait évidemment pas adapté de le blâmer ou de prendre parti. Et encore moins, bien sûr, de se mettre en colère. Non, ce qui va être plus juste, plus adapté pour que l'enfant puisse la vivre, cette indignation, eh bien, c'est d'écouter ce qu'il a à dire. Et puis aussi, en profiter, parce que c'est peut-être une bonne occasion de se remettre en question. Hein ? Est-ce que j'ai agi de manière injuste ou dure ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que je peux m'excuser, changer d'avis ? Est-ce que je peux promettre d'en parler en profondeur un peu plus tard ? Voilà, donc, se mettre aussi à l'écoute. Ça ne veut pas dire se plier à tout ce que demande l'enfant, non. Je dis juste que quand il ressent une situation d'injustice et qu'il a besoin de s'indigner bien fort, c'est une belle occasion pour nous les adultes pour venir nous remettre en cause, en question. Et en tout cas, l'enfant, son indignation, s'il peut la dire, si c'est permis, s'il peut être écouté, ça ne va pas durer très longtemps, en fait. Hein. Il va pouvoir vraiment le dire. Une fois qu'il aura bien vidé son sac, alors on pourra prendre des décisions et continuer de manière plus calme ensemble. Il nous reste les peurs et la colère. Mais avant, voyons une petite pause musicale. Et oui, puisque il en faut des ressources hein, pour s'occuper des enfants. Il en faut bien des ressources. Et moi, une manière de me ressourcer que j'aime beaucoup, c'est écouter de la musique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un compositeur bulgare qui s'appelle Peter Deneuve, un violoniste. Et là, ça s'appelle « Mélodie du printemps ». C'est orchestré par Gilles Hénaud. Donc voici pour cette pause musicale avec Peter Deneuve. À l'écoute de Radio Vassivière pour l'émission numéro 2 de Élève-toi
avec les enfants
avec Émilie. Nous avons vu avant cette pause musicale différentes émotions. Nous avons vu les pleurs, la crise de rage qui fait suite à la frustration et l'indignation qui fait suite à l'injustice. Voici maintenant la peur. La peur et sa réponse, la panique. Beaucoup de choses peuvent faire peur aux enfants. Et ce, dès l'accouchement. Et oui, rester coincé, étouffé, manquer d'eau, être séparé. Et puis, il y a le bruit, la lumière, les conversations autour, les visages avec des expressions un peu tendues, les conversations tendues aussi. Il y a aussi la violence des écrans, les inconnus qui apportent leur visage un petit peu trop près, là. Les changements brusques et inexpliqués, les traitements médicaux. Et oui, plein de choses peuvent faire peur aux bébés et aux enfants. Un enfant qui a au moins une peur mène une vie tendue. Une peur racine, on dit, une peur qui est là, bien ancrée. Eh bien, il est tendu, il manque de paix et de joie. Et il est facilement déconnecté. Oui, comme je vous en parlais dans la première émission, certains enfants sont tout le temps connectés, on a l'impression, quoi qu'il se passe, tout va bien, ils ont peu besoin de nous, un bisou le soir et hop, déjà ils nous disent de sortir, c'est bon. Et puis d'autres, ouh, aïe aïe aïe, non, on a l'impression que la déconnexion, elle se fait toutes les 18 secondes. Il va falloir coucher pendant une heure, s'il se réveille, il faudra être encore là. Voilà, il y a des enfants qui ont beaucoup plus besoin d'être en connexion avec nous. Et cela peut s'expliquer par une peur racine qui est là, bien présente en lui et qui l'empêche d'être pleinement épanoui. L'enfant est alors nerveux, impatient et difficile à satisfaire. Il manifeste aussi colère et agressivité quand sa peur domine. Alors, contrairement aux autres émotions, eh bien, l'enfant ne va pas exprimer sa peur au moment où il a peur. Puisque au moment où l'on a vraiment peur, eh bien, on est comme figé. Hein. L'enfant ne peut pas faire sortir à ce moment-là, c'est plutôt les signaux d'alerte qui sont là. On est en mode survie, enfin, il est en mode survie, et non, c'est pas tout de suite que ça va être exprimé. Il va tenter plus tard de faire sortir cette émotion. Et dans des moments où nous ne verrons peut-être pas du tout le rapport, hein, peut-être qu'il a eu peur d'un chien, sur le coup il est resté un peu tétanisé, il ne s'est rien passé, et puis là on est en train de jouer à la maison 3 heures après, et voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il rentre dans une émotion qu'on ne comprend pas, et en fait il est en train d'essayer d'évacuer la peur qu'il a eue face à ce chien tout à l'heure. Pour guérir de sa peur, L'adulte met l'enfant à la bonne distance. C'est-à-dire la distance où l'enfant peut à la fois ressentir la peur, mais aussi la distance où il se sent en sécurité pour pouvoir évacuer les tensions. Alors là, c'est pas facile. Si on prend l'exemple du chien, disons que l'adulte a compris qu'il y avait vraiment eu une peur avec le chien, et plus tard dans le jeu, eh bien, il joue avec l'enfant et il joue qu'il fait le chien, et il va faire peur à l'enfant. Alors, si la distance n'est pas bonne, que la peur est trop proche, qu'on se met à imiter le chien qui fait peur, et que l'enfant a vraiment peur parce qu'on est trop proche, on fait trop peur, il ne va pas pouvoir évacuer son émotion parce que là, justement, il est trop dans la peur, ça ressemble trop à l'instant où il a été figé. Et une autre distance qui ne serait pas adaptée pour que l'enfant puisse guérir de sa peur, c'est que bah, le chien, il devienne tout mignon direct, il ne fait même plus peur, par exemple. Bon, bah, là, on ne peut rien évacuer parce que ça ne rappelle pas assez le moment où il a eu peur. Donc, il faudrait jouer à faire un chien qui fait suffisamment peur pour rappeler la peur qu'il y a eu, mais pas trop peur non plus pour pas se sentir figé et se sentir en sécurité pour pouvoir évacuer les tensions. Alors là, je donne l'exemple du chien, mais ça se passe aussi avec le jeune enfant qui est séparé, bon, souvent, de sa maman et qui a peur quand sa maman s'en va. Et si elle est partie direct là, comme ça, eh bien, il est figé, il ne peut pas faire sortir sa peur. Et si on veut l'aider à guérir de ça, eh bien, il va falloir que la maman le mette dans les bras de l'assistante maternelle, de la grand-mère, d'une autre personne, et s'éloigne petit à petit. Là, l'enfant va pouvoir sentir la peur arriver, que sa maman s'en aille, mais elle est encore assez proche pour qu'il puisse se sentir en sécurité pour pouvoir faire sortir cette émotion. Voilà, pour que le processus s'enclenche, il ne faut pas être trop éloigné de la peur, mais pas trop proche non plus, puisque sinon il est à nouveau figé. Alors, le processus de guérison. L'enfant se sent profondément effrayé et peut projeter sa frayeur sur nous. Il tremble, il pleure bruyamment sans larmes, il se débat avec force et fait des mouvements brusques, il crie, il transpire, il peut aller uriner aussi. Et plus les peurs sont anciennes, plus la décharge dure longtemps. Pour les petites peurs récentes, le rire aide à enclencher le processus. Et oui, c'est ce que je disais avec l'exemple du chien. Si il a eu peur du chien là ce matin et que nous sommes en train de jouer, que nous trouvons la bonne distance dans le jeu où on va faire le chien qui fait un peu peur, si l'enfant se met à rire, alors bingo, c'est gagné. Ça enclenche le processus de guérison. S'il rit, on fait le chien, il rit, on recommence, jusqu'à ce que bah, peut-être qu'il va justement pouvoir pleurer à la fin, ou si ce n'était pas trop une grosse peur, bon bah voilà, une fois qu'il aura bien ri, ça sera terminé. Je ferai une émission spéciale sur le rire et sur le jeu, justement à la fois pour aider à évacuer et pour réchauffer la relation enfant-adulte, réchauffer la connexion. Donc que doit faire l'adulte pour aider l'enfant qui est en train d'évacuer une peur ? Eh bien, l'adulte se met à son écoute avec un visage calme et attentif. Il assure bien sûr la sécurité. Il fait attention de ne pas prendre de coups parce qu'un enfant qui fait sortir une grosse peur peut devenir violent. Il peut projeter vraiment contre l'adulte qui est là ses tensions. Donc l'adulte fait bien attention à ne pas laisser l'enfant lui faire mal, sans lui faire mal non plus. L'adulte, là encore, dit juste quelques mots qui rassurent, mais ne part pas dans trop de mots qui ramèneraient au mental et sortiraient de l'état émotionnel. L'adulte conserve la bonne distance pour permettre à l'enfant de tout évacuer. Et en général, à la fin, quand l'enfant a bien pu évacuer sa peur, il vient se blottir dans nos bras et peut pleurer profondément et calmement et ensuite retrouver sa joie. Un enfant qui exprime ses peurs change de comportement. Il retrouve confiance, patience, joie et sociabilité. Et l'enfant qui n'évacue pas ses peurs reste timide, belliqueux, nerveux, fait des cauchemars et dépasse les bornes. Alors la peur, vraiment, je trouve que c'est peut-être le plus difficile à accompagner. Bon, on verra la colère aussi. Ça demande beaucoup plus de temps, la colère, pour en parler. Mais la peur, ben oui, des fois, nous ne savons même pas d'où elle vient. Et en fait, ça met l'enfant dans un tel état, à côté de ses pompes, à l'ouest, mal, que ça peut être vraiment... On peut se sentir impuissant et démuni, ne pas comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Donc avoir cette approche, avoir cette compréhension peut vraiment venir aider l'enfant à se libérer. Voici pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de quelques émotions. J'ai laissé la colère de côté puisque ça demande d'y passer beaucoup de temps. Je vais vous conseiller un livre aujourd'hui. C'est un livre du docteur Laurence Cohen, C-O-H-E-N, qui s'appelle « Qui veut jouer avec moi ?». C'est un livre hyper pratique parce qu'il y a plein d'exemples justement de jeux qui vont amener à la guérison chez l'enfant. Vous pouvez trouver ce livre aux éditions Marabout, vraiment pour quelques euros. Et quelques heureux euros, ça peut faire beaucoup d'heureux. Vraiment un très précieux livre pour tous ceux qui s'occupent des enfants, que vous soyez parents, futurs parents, grands-parents, ou bien que vous occupiez d'eux dans votre milieu professionnel. J'ai mis sur ma chaîne YouTube Émilie Roudier une quinzaine de pièges que l'on trouve sur notre chemin d'éducateurs et de parents bienveillants. Et je vous en ai parlé d'un aujourd'hui, le premier. Le plus grand, c'est celui de trop parler. Hein, souvent, on se dit être bienveillant, c'est être là, accueillir. Mais souvent, on transforme ça en trop parler, en blablabla, blablabla. Nous sommes des êtres mentaux, oui, mais pas eux encore, pas encore les enfants. Et pour faire sortir tout ce qui est coincé à l'intérieur d'eux, c'est le corps émotionnel qui parle et pas le corps mental. Donc, une invitation pour vous, jusqu'à la semaine prochaine, c'est de faire attention à vos mots. Est-ce que vous parlez trop avec les enfants? Parce que ça les saoule en fait, hein, les enfants. Ils comprennent un peu les premiers, mais non, dès qu'on rentre dans trop de paroles, trop de verbes, juste ça les saoule, c'est pas leur langage, ils ne nous comprennent pas. Voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les 14 autres pièges. Eh bien, je vous souhaite une bonne suite de journée. C'était Émilie avec la deuxième de l'émission Élève-toi
avec les enfants.
Sur Radio Vassivière, vous pouvez m'envoyer vos questions à emilie9@posteo.net. Vos questions, vos situations que vous vivez avec les enfants, ça pourra me faire des idées et je viendrai apporter des réponses sur l'antenne. Très bonne journée à tous.